much more to offer. We're community radio. We're Radio Verulam.
Good evening and welcome to Bouche à Oreille, Radio's Verulam monthly show for West Harts francophones and francophiles. We are on air here on 92.6 FM every third Thursday of the month at 9 PM and it's exclusively en français.
Bonsoir et bienvenue sur Bouche à Oreille, l'émission mensuelle de Radio Verulam pour les francophones et francophiles du West Harts présentée par Aline et Géraldine. Ce soir, nous allons parler de l'éducation des enfants des anges. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir deux invités avec nous dans le studio. Attention, c'est très serré. Tout d'abord, Yasmine Garraud, qui nous apportera son témoignage sur son expérience de l'école en France et en Grande-Bretagne. Et puis, nous avons également Thomas Gardner avec nous pour discuter de l'éducation au sein de la famille, à la française et à l'anglaise, tout un programme.
Ah, enfin un homme dans le studio, il était temps. Bon, précisons à nos auditeurs qu'il ne s'agit évidemment pas de juger un système plutôt que l'autre ou de faire un procès, mais on va plutôt mettre en avant leurs différences afin d'identifier ce qui nous paraît le plus intéressant et le plus enrichissant des deux systèmes éducatifs. Bon, alors, on commence par l'actualité en France, comme d'habitude. Vas-y, Aline.
Oui, comme d'habitude. Alors, vous vous souvenez que notre dernière émission était consacrée aux élections présidentielles. Bon, ce n'est plus vraiment un scoop. François Hollande est officiellement devenu le 7e président de la 5e République française avant-hier. Jean-Marc Ayrault est Premier ministre et on connaît depuis hier après-midi les noms des autres membres du gouvernement. Pas de Martine Aubry, mais des personnalités connues telles que Laurent Fabius aux affaires étrangères, Pierre Moscovici à l'économie et aux finances et Manuel Valls à l'intérieur. Le premier conseil des ministres a eu lieu cet après-midi et cela fait plaisir de voir qu'une fois n'est pas coutume, sur 34 membres, il y a 17 femmes. Enfin la parité. Bon, nous allons jeter un petit œil dans le rétroviseur et revenir sur les résultats des deux tours qui ont bien sûr occupé une place majeure dans les médias français et étrangers. En France, les médias se sont pliés à la directive qui interdisait la publication de résultats provisoires. Mais sur la toile, on voyait dès 18h30 des messages subliminaux faisant référence entre autres au fromage ou au goulash. Bref, au premier tour des élections, François Hollande est arrivé en tête avec 28,6% des suffrages, suivi d'assez près par Nicolas Sarkozy avec 27,2%. Marine Le Pen était en troisième place, comme le prévoyaient les sondages, mais son score de 17,9% a créé une relative surprise et moult commentaires de ce côté de la Manche. Avec 11,11%, Jean-Luc Mélenchon a fait un score assez décevant, de même que François Bayrou qui n'a pas réussi à passer la barre des 10%, avec seulement 9,13%. Les autres étaient vraiment très loin à la traîne et du coup, le grand enjeu du deuxième tour était le report des voix de Le Pen, Mélenchon et Bayrou. Et il a régné un certain suspense pendant quelques jours. Pas de coup de théâtre pour Mélenchon, qui a appelé ses électeurs à voter contre Sarkozy. De son côté, Marine Le Pen a déclaré qu'elle voterait blanc, mais n'a pas donné de recommandations à son électorat. C'est François Bayrou qui a déclenché un véritable séisme dans le paysage politique français, en appelant à voter pour François Hollande. C'était la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'un centriste a encouragé à voter pour un candidat de gauche. Bayrou a déclaré que ceci était une question de valeur personnelle qui ne pouvait se réconcilier avec les appels de Sarkozy à l'électorat d'extrême droite. Cela ne veut pas dire pour autant que le Modem se rapproche du PS et Bayrou a dit clairement hier qu'une cohabitation serait, je cite, une catastrophe. Bref, Sarkozy s'est donc incliné au deuxième tour avec 48,30% des voix contre 51,64% pour François Hollande.
Et comment ont voté les Français à l'étranger ?
Alors, les Français à l'étranger ont un poids de plus en plus important. Le nombre d'inscrits a été multiplié par 8 depuis 81. Le savais-tu, Géraldine ?
Non.
Bon. Alors, ils ont l'habitude de voter à droite et ça a aussi été le cas pour ces élections. Sarkozy est arrivé nettement en tête avec 53,05% des suffrages contre 46,95% pour François Hollande. Ils sont donc en net décalage avec les Français de l'Hexagone.
Et au Royaume-Uni, c'est aussi Sarkozy qui arrive en tête ?
On aurait pu effectivement s'y attendre car traditionnellement, la communauté française de ce côté de la Manche vote à droite. petite révolution. Pour la première fois, les Français du Royaume-Uni ont voté à gauche, même s'il y a des différences très marquées suivant les circonscriptions et si les scores sont très serrés par rapport à la France. François Hollande a remporté avec 50,8% des suffrages contre 49,7% pour Nicolas Sarkozy. Bon, la prochaine étape maintenant, ce sont les élections législatives du 17 juin et tous les partis sont d'ores et déjà en campagne déclarée. Ces élections seront très intéressantes pour nous Français de l'étranger car pour la première fois, nous pourrons élire un député rien que pour nous qui siégera à l'Assemblée nationale.
On en a de la chance. Et en plus, on peut voter par Internet. Bon, à part ça, les élections, de quoi on parle en France?
Alors, l'Europe occupe toujours une part importante avec la crise grecque tout d'abord et les rumeurs de sa sortie de l'euro. Et l'Allemagne est aussi dans l'objectif des médias et on s'interroge sur les rapports futurs de Hollande avec Merkel qui n'avait pas caché son soutien à Sarkozy. Le parti de la chancelière a essuyé une défaite historique aux élections régionales de dimanche dernier, ce qui semble signaler que le vent de révolte contre l'austérité commence à souffler même au sein de l'Allemagne. Bon, ce n'est pas le vent, mais la foudre qui a touché l'avion de François Hollande alors qu'il se rendait à Berlin pour rencontrer Angela Merkel mardi. Il est finalement arrivé à bon port et semble s'être mis d'accord avec la chancelière pour mettre plus d'accent sur la croissance afin de tenter d'enrayer la crise en Europe. Donc jusqu'ici, tout va bien. Bon, plus léger, plus glamour, le festival de Cannes qui a débuté hier et se tiendra jusqu'en 27 mai est aussi à l'honneur. Nous n'aurons pas le temps de vous parler ici de la programmation, mais si vous voulez tout connaître, vous pouvez aller sur www.festival-cannes.fr. Voilà, enfin comme d'habitude, je clôt cette rubrique avec ce qui nous a laissé bouche bée.
Vas-y.
Alors cette fois, c'est la BBC.
Oh non.
Ouais. Après le discours de François Hollande le 6 mai à Tulle, alors qu'il était nouvellement élu président de la République, on pouvait voir des accordéonistes jouer la vie en rose sur scène. C'était beau, tu peux pas t'imaginer. Et le journaliste de la BBC de commenter avec tact qu'il ne manquait plus que de voir des gens se promener avec des colliers d'oignons. T'as mis le tien, toi, aujourd'hui, Géraldine, ou est-ce que t'as seulement ton béret?
Écoute, moi, je croyais que c'était des colliers d'ail qu'il fallait, alors, franchement...
Apparemment, c'est les oignons.
Bon, je suis plus à la mode.
Bah, visiblement, ouais.
Bon, alors, on passe à la rubrique culturelle et de ce qui se passe de ce côté-ci de la Manche. Donc, ce mois-ci, j'ai longtemps hésité, je dois vous le dire, pour savoir ce que j'allais vous présenter. Il y avait beaucoup de choix, donc il a fallu que je fasse du tri. Côté cinéma, il y a plusieurs films français à l'affiche en ce moment à Londres. Et donc, j'en ai fait un petit résumé et vous trouverez tout ça sur notre blog dès demain. C'est sur bouche-à-oreille.radiovavelam.com. Celui sur lequel je voulais m'arrêter, c'est un film d'animation qui s'appelle Une vie de chat en français et ça a été traduit par A Cat in Paris. Donc c'est un film de Jean-Louis Felicioli et Alain Gagnol qui a été présenté dans de nombreux festivals. Il a même été nominé aux Oscars en février dernier parmi les films d'animation. Donc l'histoire, c'est celle d'un chat qui mène une double vie. Le jour, il est l'animal de compagnie de Zoé, qui est une fille de 7 ans. Et la nuit, le compagnon d'un célèbre cambrioleur, voleur de bijoux, qui fait tourner en bourrique la police.
C'est Arsène Lupin, version chat.
Ouais. Voilà. Donc la maman de Zoé est commissaire de police et son papa a été tué par un gangster très dangereux. Voilà, le tableau est dressé. Il va s'en suivre un jeu de chat et souris entre tous les personnages. Il y a des hors-la-loi qui sont finalement gentils, des gentils qui se dévoilent être des méchants. Bref, c'est un vrai polar en dessin animé. Et je vous en parle parce que ça passe ce dimanche à Watford, au Palace Theatre, à 15h. En plus, comme on parle d'éducation ce soir, j'en profite pour indiquer aux professeurs de français de l'audience qu'il y a sur le site du film, toute une fiche pédagogique pour s'en servir comme sujet à étudier en classe. Donc c'est super parce que c'est du très bon matériel, c'est tout prêt à utiliser avec les élèves. Et vous trouverez ça sur www.unevideuchat-lefilmenunseulmot.fr. Donc voilà pour le petit interlude pour nos amis cinéphiles. Côté bouquin, j'en ai retenu deux qui couvrent notre thème de ce soir. Donc il faut faire attention parce que leurs titres sont très similaires.
Et en anglais en plus, hein. Bravo, hein.
Et en plus, ils sont, il y a aussi des livres en anglais, c'est vrai. En plus, ils sont tous les deux sortis en 2012. Donc attention à ne pas les confondre. Le premier s'appelle French Children Don't Throw Food et c'est écrit par Pamela Druckerman, qui est une américaine mariée à un anglais et qui déménage à Paris avec ses filles, sa fille, pardon, et ensuite elle a deux jumeaux. Et elle découvre alors avec stupéfaction puis envie l'éducation à la française. Bon, pour le moment, je n'en ai lu que quelques extraits, mais ça a l'air très bien écrit et c'est assez amusant, surtout quand on voit les choses qui la surprennent, alors que pour les Français, ça nous paraît plutôt évident. Et ça nous renvoie même à notre petite enfance, même si parfois, on a oublié de les reproduire avec nos propres enfants trop conditionnés que nous sommes par notre environnement britannique.
Oui.
Vous trouverez une interview de Pamela sur French Radio London. Nous vous mettrons le lien sur notre blog dès demain. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La journaliste, par exemple, entre autres l'interview sur le nom de son livre, donc qui est French Children Don't Throw Food, les enfants français ne jettent pas la nourriture. Moi, je me souviens par exemple très bien qu'en primaire, on nous servait de la langue de bœuf à la sauce tomate. Je t'assure qu'on tartinait la langue avec la sauce et on la collait sous la table en prétendant qu'on avait fini notre assiette.
Ouais, mais je savais toujours que c'était une petite maladie, Géraldine. Ça, j'ai senti que dès l'enfance, c'était
déjà
comme ça.
Donc, les enfants français ne jettent pas la nourriture ? Peut-être à lire pour voir.
D'accord.
Le deuxième livre aborde exactement le même thème. Il s'appelle cette fois-ci French Kids Eat Everything.
Ah bah ils sont vraiment à la gloire sur les fonds.
Donc les enfants français mangent de tout. C'est écrit par Karen Le Billon. Alors elle, c'est une Canadienne. Elle est mariée à un Français. Elle a étudié à Oxford en Angleterre, donc elle connaît l'Angleterre. Et ils décident de déménager dans un tout petit village de Bretagne, pas à Paris, avec leurs deux jeunes enfants. Alors, elle non plus n'est pas préparée pour le choc culturel et notamment culinaire qu'elle rencontre.
C'est les crêpes et le cidre, c'est ça?
Arrête avec les clichés, c'est bon, quoi.
Je continue.
Alors, elle synthétise son expérience et ses découvertes en 10 French Food Rules, donc 10 règles françaises de nourriture, qui sont très bien vues selon moi. Et elle finit le livre avec des recettes de plats qui seront appréciés par les petits comme les grands. Donc, ce livre-là, je suis en train de le lire et je peux te dire que je me délecte, mais j'avoue que je verse une larme de temps en temps en constatant que j'ai oublié certaines des French Food Rules avec mes enfants et que j'en vois malheureusement les conséquences, comme être obligé de cuisiner deux ou parfois même trois menus pour le même déjeuner parce que les enfants en Angleterre ne mangent pas la même chose que les parents, ou bien quand je suis bien forcée de constater qu'aucun de mes enfants n'apprécie le fromage. Une vraie trahison pour ma femme. Bon, mais depuis que j'ai ouvert le bouquin, j'ai pris de bonnes résolutions pour retrouver la cuisinière française qui est en moi. Donc, c'est un livre à dévorer de toute urgence pour adoption des 10 règles au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Pas question, en effet, que mes enfants arrivés à l'âge adulte fassent la moue devant un magnifique plateau de fruits de mer. Après cette parenthèse sur l'éducation culinaire, voici quelques annonces pour l'éducation linguistique, cette fois-ci, de nos enfants. Donc, nous avons beaucoup d'offres à notre disposition dans les avirons, on est assez gâtés. Pour les plus jeunes, il y a un toddler group exclusivement en langue française qui s'appelle « Les petits amis ». Ils se réunissent tous les vendredis matin, hors période scolaire de 9h45 à 11h15 à Saint-Alban. Il y a bien sûr des jeux, des jouets, mais aussi des histoires, des chansons en français et une bibliothèque. Vous trouverez toutes les informations sur ce groupe sur notre blog dès demain. Pour les enfants scolarisés, nous avons une école française du samedi matin qui s'appelle Les Petits Écoliers. C'est aussi à Saint-Alban et c'est tous les samedis de 10h30 à midi. Les cours s'adressent aux enfants bilingues en français mais également aux débutants. Et en septembre, ils prévoient également d'ouvrir une classe pour les enfants plus jeunes à partir de 3 ans. Tous les enseignants sont français dans cette école et elle vient juste d'être reprise par une nouvelle direction très dynamique et enthousiaste. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre blog dès demain. Et enfin, pour toutes les familles francophones, il y a un groupe qui s'appelle Les Grenouilles de Luton.
Bah là, on est vraiment sur les clichés aussi.
Donc, elles se réunissent une fois par mois, c'est le dimanche matin, de 10h30 à midi. Et ils proposent des activités, des jeux, des chansons en français. Mais justement, je vous en parle parce que leur prochaine rencontre, c'est dimanche, ce dimanche 20 mai. Vous trouverez encore une fois les informations et les contacts sur le blog dès demain. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cours de rattrapage linguistique avec vos enfants cette fin de semaine, vous allez aux petits amis vendredi matin, aux petits écoliers samedi matin, aux grenouilles de Luton dimanche matin. Vous finissez par le cinéma à Watford à 3h pour voir une vie de chat et le tour est joué. Toutes les références de tout ce que je viens de dire, parce que j'ai parlé très vite, vous trouverez tout et ainsi que les contacts sur notre blog dès demain. Et le blog, prenez vos crayons, c'est www.bouchaoreille.radioverulam.com.
Bouche à oreille, tout collé.
Tout collé.
If you've just joined us and are wondering why we're chatting in French on Radio Verulam, this is Bouche à oreille, the monthly French show for West Hearts, francophones and francophiles. We are here every third Thursday of the month at 9 p.m. and tonight we are talking about education.
Oui, vous écoutez Bouche à oreille ce soir et on parle d'éducation à la française et à la britannique. Alors notre première invitée de ce soir est Yasmine Garraud qui est venue pour nous parler d'éducation. Bonsoir Yasmine.
Bonsoir tout le monde.
Alors merci d'être venue ce soir et nous allons parler d'éducation, comme on l'a dit, à la française versus à l'anglaise. Nous t'avons invitée pour discuter plus précisément du système scolaire. Et je vais dire pourquoi, parce que tu as quand même 4 enfants et que tu as goûté aux 2 systèmes. Alors est-ce que tu peux nous décrire rapidement ta situation ?
Donc je m'appelle Yasmine, comme tu l'as indiqué, j'ai 4 enfants et nous sommes arrivés à Saint-Alban il y a à peu près 4 années maintenant. Les 4 enfants sont scolarisés dans le système britannique, et aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Et avant de venir en Angleterre, ils étaient tous à l'école en France.
Et toi, quand tu étais enfant, tu as connu quel système éducatif ?
Alors j'ai commencé en maternelle à l'école indienne, qui était en fait une école en anglais. J'ai habité en Chine, donc c'était la solution la plus simple pour mes parents. Et ensuite, j'ai intégré l'école française dans pas mal de pays différents. Mais en réalité, ce n'était pas du tout gênant, puisque en France, comme vous le savez peut-être, il y a le système du programme, qui est le sacro-saint programme de l'éducation nationale. Donc, en déménageant, on avait quand même une continuité dans le programme et dans les enseignements. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en Angleterre, les cursus peuvent différer assez notablement, y compris d'une école sur l'autre. Par exemple, en secondaire, certaines écoles introduisent dès la 6e 2 langues étrangères, alors que d'autres n'en proposent qu'une.
Voilà, alors que dans le système français, finalement, quel que soit le pays, tu suivais toujours les mêmes livres.
Exact.
Voilà.
Oui.
Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas d'enfants scolarisés, est-ce que tu peux nous décrire rapidement les 2 systèmes ?
Alors, j'ai remarqué, donc, mon enfant le plus jeune, qui a 5 ans, a fait seulement une année de maternelle en Angleterre, puisque l'âge d'entrée, en fait, à l'école en Angleterre est de 5 ans. Et en France, il est de 6 ans, même si la grande majorité des enfants français se rendent en maternelle pendant 3 ans.
Voilà, donc on précise qu'il y a donc 3 années de maternelle non obligatoire en France,
voilà.
Contre une en fait.
En Angleterre.
Pareil, non obligatoire, mais par contre, c'est 3 heures par jour.
C'est une demi-journée. Oui, c'est des demi-journées. Mmh. Mmh.
Donc ensuite, les Français commencent à 6 ans, les Anglais à 5 ans. Et ensuite, ça ressemble à quoi ?
Alors j'ai trouvé que l'apprentissage de la lecture était un petit peu plus précoce en Angleterre, puisque les enfants apprennent à lire dès leur entrée à l'école, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans, alors que de manière générale en France, le CP est véritablement, le CP c'est-à-dire la classe en fait où les enfants ont 6 ans, et se concentre véritablement sur la lecture.
Donc c'est un an plus tard.
C'est un an plus tard.
Voire 2 ans, parce qu'il y a quand même des enfants qui commencent l'école à 4 ans. Comme mon fils, il a commencé à 4 ans. Donc c'est très précoce.
Par contre, en Angleterre, ils étalent l'apprentissage sur 2 ans.
Sur 2 ans, oui.
Alors, c'est amusant parce que cette histoire d'apprentissage précoce de la lecture, il est relevé par Pamela dans son interview sur French Radio London, où elle dit qu'en fait, les Anglais, en tout cas les Anglo-Saxons, sont très impatients à ce que leurs enfants commencent dès le plus jeune âge. Bon, puisque tu connais les 2 systèmes et surtout que tu vas repartir en septembre, donc je suppose que tu as fait une étude comparative des 2 systèmes.
Tout à fait.
Voilà, alors dis-nous quelles sont les grandes différences à ton avis.
Alors, je vais parler uniquement de mon expérience donc personnelle, et j'ai trouvé qu'en en Angleterre, l'école est très axée sur l'individu. En fait, donc l'Angleterre accueille non pas seulement un élève, mais un enfant. Donc chaque élève en fait est perçu comme comme pas uniquement un réceptacle de l'enseignement. Chacun avance également à son rythme. Il y a notamment assez peu de notes et assez peu de contrôle, et les enfants ne sont absolument pas classés au sein d'une même classe, dans leur communauté de classe. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a malgré tout des groupes de niveaux qui sont différents par matière, donc c'est pas mal. En fait, l'enseignement est assez individualisé, et de manière générale, je pense que les enfants sont moins soumis à un stress. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est un système qui est quand même assez normé, assez strict. Et il y a en permanence un contrôle qui s'exerce sur la qualité du travail produit par les enfants. Et en France, notamment, chacun doit rentrer dans le moule. L'enseignement qui est dispensé est valable pour tous les enfants. Et notamment, il n'y a pas cette possibilité de se placer par niveau. L'autre point que j'ai remarqué, c'est qu'en France... les écoles ne bénéficient pas de la même autonomie qui existe ici. Donc notamment ici, le chef d'établissement a un rôle très très important, aussi bien en primaire qu'en secondaire, et en quelque sorte c'est lui ou c'est elle d'ailleurs la locomotive de l'établissement. Il recrute notamment les enseignants, ce qui en France est totalement impensable, puisque les enseignants sont recrutés par l'éducation nationale. Et je me rappelle que quand je lisais la presse locale en arrivant ici, je voyais des annonces de recrutement pour les enseignants, en fait, et postule qui veut. Donc il y a une grande liberté dans l'emploi. Je trouve également que l'autonomie se retrouve au niveau du financement par le PTA, en fait, le Parent Teacher Association, au niveau de chaque école, qui lève des fonds au profit de l'école qu'il représente. Donc chaque école est véritablement une communauté.
Alors, le PTA, c'est un peu l'équivalent de l'Association des parents d'élèves.
Oui.
Sauf qu'en effet, ils récoltent des fonds qui sont bien plus importants que ce qu'on peut voir dans les écoles françaises.
Oui, à l'école française.
De l'ordre de plusieurs milliers de livres par an.
Oui. L'école où nous étions se bornait en fait à vendre quelques confitures de temps en temps. Donc
ça fait pas des milliers de livres.
Non,
à moins que ça soit.
Ça veut dire aussi.
Les confitures étaient très bonnes, certes.
Elles étaient toujours attendues avec beaucoup d'impatience, mais c'est clair qu'on n'était pas dans les milliers.
Mais ça veut dire aussi que l'école anglaise implique beaucoup plus les parents que ne le fait l'école française, en fait.
Mmh. Oui. Et d'ailleurs, je voulais dire également que l'école ici est véritablement un lieu de vie où les parents sont accueillis, où les parents sont encouragés à venir, où il y a en permanence des échanges entre les professeurs et les parents par le biais de rencontres. Vous allez trouver toujours des enseignants qui viennent à votre rencontre dans la cour de récréation pour vous demander comment ça va. Alors que en France, l'expérience n'a pas été identique.
Bon, je précise, tu parles de ton expérience
personnelle.
Tout à fait. Mais par contre, c'est vrai qu'on demande aux parents, par exemple, de venir laver les fruits qui vont être distribués aux enfants, de venir faire des cours de cuisine pour les enfants, de venir aider les enfants à faire des cours de lecture. Ça, c'est encore plus étonnant pour des Français parce que normalement, c'est quelqu'un de qualifié, entre guillemets, qui va s'occuper de la lecture.
Oui. Je pense que c'est aussi lié à la disponibilité des parents et surtout des mamans en Angleterre. Enfin, je sais qu'on en parlera aussi un peu avec Thomas, du fait que, en fait, beaucoup de parents ne travaillent pas et donc peuvent...
Ont des horaires décalés,
adaptés, donc peuvent venir, alors qu'en France, c'est beaucoup moins envisageable.
Voilà, et ça, c'est parce que l'école finit à 3h en Angleterre.
Voilà.
Alors, excuse-moi, vas-y, continue.
Alors. Oui, et quand je parlais de lieu de vie, par exemple, il n'est pas rare de voir une école prêter ou louer d'ailleurs son assembly hall, en fait, qui est le lieu où se réunissent tous les élèves, soit pour proposer des cours de gymnastique, soit dans une autre école où étaient les enfants des cours d'illettrisme, pour les parents qui éventuellement en avaient besoin. Donc c'est véritablement un lieu de vie, je crois, l'école.
Alors parle-nous de l'inspection maintenant.
Alors, il faut savoir ici que les écoles sont inspectées périodiquement par un organisme qui s'appelle l'Ofsted, qui font des rapports écrits et ces rapports sont rendus publics et qui attribuent à une école, non pas à un enseignant comme c'est le cas en France, qui attribuent une note à une école à laquelle donc vont pouvoir se référer soit les parents qui souhaitent inscrire les enfants, soit les parents dont les enfants sont déjà inscrits, bien sûr. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour justifier la note finale obtenue par l'établissement, les inspecteurs en fait examinent tout un tas de critères, y compris par exemple la confiance en eux que les enfants semblent montrer, leur autonomie, la façon dont sont conduites les leçons, etc. Donc ça, c'est assez intéressant.
Alors que l'inspecteur d'académie, lui, va respecter le travail d'un enseignant à chaque fois. Et aussi, les rapports sont publics, ce qui est, on peut lire l'intégralité du rapport en tant que parent. D'accord. Est-ce que finalement, il y a un système que tu préfères? Je crois que je connais la réponse.
Non, je pense que chaque système a du bon, puisque naturellement, j'ai parlé...
C'est bien, on m'a dit qu'on critiquerait personne.
Voilà, absolument. Je serais très diplomate. Je trouve que le point positif de l'école anglaise, c'est qu'il me semble qu'elle développe quand même pas mal l'esprit critique. Elle encourage la confiance en soi de chaque enfant, plutôt que simplement l'acquisition d'un savoir. Je trouve également que les acquisitions se font de manière plus pratique, plus pragmatique. Par exemple, lorsque les enfants étudient la période Tudor, ils vont avoir une journée pendant laquelle ils vont tous se déguiser en Tudor, ils vont manger des menus Tudor, etc., etc. Donc ça a un côté un peu moins rébarbatif que simplement le travail écrit ou la lecture.
Très bien. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Yasmine pour ton témoignage, très intéressant. Donc maintenant, nous allons passer à Thomas. Et cette fois-ci, on ne va plus parler d'éducation à l'école, mais on va parler de l'éducation au sens large.
Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il nous faudrait toute une émission, en fait, pour parler de l'éducation, parce qu'il
y a beaucoup à dire,
mais bon, on a déjà eu un avant-goût avec Yasmine. Alors Thomas, bonsoir. Enfin, un homme dans le studio, on l'a dit, ça fait du bien quand même.
Bonsoir, mesdames.
Arrête, il est gelé maintenant.
Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de parler de l'éducation au sein maintenant de la cellule familiale, en fait, en France et en Grande-Bretagne.
Alors, d'abord, Thomas, est-ce que tu peux nous raconter un peu brièvement ton parcours personnel ?
Oui, bien sûr. Je suis anglais. Je suis né à Portsmouth et je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons. J'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, mes parents sont venus passer des vacances dans le sud-ouest de la France. Et 6 mois plus tard, nous y vivions. Donc voilà, et séduit par la région. J'ai commencé l'école française en CP. Et puis, j'ai un parcours scolaire 100% français. Et aujourd'hui, je travaille chez Renault en région parisienne.
Donc 100% français quand même.
Voilà, et on ne peut plus français. Et aujourd'hui, eh ben, je vis une expatriation avec mon épouse et mes trois enfants en Angleterre. Donc nous sommes ici depuis 2 ans bientôt.
D'accord. Et alors, quels sont, à ton avis, les différences entre l'éducation à la française et à l'anglaise ? On a quelques thèmes. Par exemple, au point de vue du rythme familial, qu'est-ce que tu observes comme différence ?
Alors, je vais préciser que je parle uniquement de mon expérience personnelle et c'est en aucun cas une généralité, mais premièrement, on l'a évoqué, c'est les journées à l'école qui sont quand même beaucoup plus longues. On commence souvent à 8h30, on va jusqu'à 16h30, 17h. Alors, il suffit qu'il y ait un petit transport scolaire pour rentrer, pour qu'on soit de retour de la maison après 18h. Donc, forcément, ça a une influence sur le rythme de la famille. Il y a également des devoirs tous les soirs, donc là aussi, hein, c'est même au primaire, on se colle un petit les devoirs tous les soirs, et donc ça a une influence sur l'horaire des repas. Donc en ce qui me concernait, c'était un petit goûter au retour de l'école, et puis on dînait vers 20h.
Ouais, ça me rappelle des souvenirs à moi aussi.
Et qu'il faut dire pour ceux qui ne savent pas que les enfants ici sont très souvent couchés à 7h30, voire 7h pour les plus jeunes.
Ouais.
Exactement. Je trouve que la vie, en fait, on est obligé de s'adapter à la vie à l'école en Angleterre, alors que c'est peut-être plus facile en France de s'adapter.
Tout à fait. D'accord. Et alors, les livres dont nous a parlé Géraldine étaient quand même axés beaucoup sur la nourriture. Qu'est-ce que tu as observé au point de vue de l'alimentation, des repas, etc.?
C'est un petit peu difficile de parler de la vie en France sans aborder la nourriture.
Oui, tout à fait.
Donc le repas est un vrai moment.
Les clichés ce soir, c'est terrible.
Non, mais là, c'est des bons clichés. C'est pas le collier d'oignons, ça va. On veut bien ce cliché-là.
Donc le repas en France, enfin, c'est pas nouveau. Hein, c'est un vrai moment d'échange. Et les enfants suivent beaucoup plus le rythme adulte qu'en Angleterre. Un repas en France, c'est souvent entrée, plat, fromage. Alors qu'en Angleterre, on est plus sur des plats uniques et plutôt typique pour les enfants, c'est-à-dire une kid's meal tout prêt et facile à manger. La grosse différence quand même, c'est que les Anglais mangent pour vivre, alors que j'ai un peu l'impression que les Français, c'est un peu le contraire.
Ah oui, pour moi, tout à fait, je peux confirmer, je vis pour manger.
C'est quand même pas un monde idéal, parce qu'il y a souvent la télévision allumée à table en France. Hein.
Ouais, c'est vrai. Les repas durent quand même beaucoup plus longtemps aussi en France.
Ah ben les repas de famille, c'est toute une institution en France. On peut passer des heures à table même quand on est très jeune.
Voilà, tout à fait. Moi j'ai des souvenirs, hein. Les dimanches après-midi c'était 3h, hein, le repas. Commençait à 13h, on finissait à 15h. Oh, 16h même, 16h. Alors, à part ça, pour ce qui est activités, loisirs, vacances, est-ce que tu as aussi observé des différences ?
Ben en France, c'est très calé. En mois de février, c'est le ski pendant les vacances d'hiver. Les vacances scolaires sont même échelonnées pour pouvoir s'adapter. Mm-hmm. En été, y a une petite parenthèse, hein, juillet-août en France quand même, où les juilletistes et les aoussiens se retrouvent sur les aires d'autoroute lors du chassé-croisé. Et puis surtout, les vacances sont beaucoup plus longues en France, donc... Les enfants ont l'occasion, il faut les parquer quand même, il faut que quelqu'un s'en occupe pendant les 2 mois.
C'est vrai.
Alors qu'en Angleterre, c'est souvent des vacances quand même plus courtes et puis souvent à l'étranger. En France, on passe souvent quand même des vacances sur le territoire. En ce qui me concerne, j'avais pas besoin de vacances, j'étais dans le sud-ouest.
Bah ouais, t'étais en vacances toute l'année en fait.
Exactement.
Impeccable.
Et je sais qu'on en a parlé quand on a préparé un peu l'émission. Aussi en France, les vacances, souvent, c'est chez les grands-parents. Tu n'avais peut-être pas cette expérience-là, toi, en tant qu'enfant.
Alors moi, c'était tout le contraire. Moi, j'avais mes grands-parents en Angleterre. J'avais toute ma famille en Angleterre. Donc moi, j'avais que mes parents en France. Mais j'avais la chance d'avoir une mère qui ne travaillait pas. Donc on était à la maison l'été.
Super. Bah, dans le sud-ouest, pourquoi pas, hein. Ça fait du bien. D'accord. Et alors, pour ce qui est des bonnes manières et de la discipline, alors ?
Alors, tout un programme. donc non, mais la discipline, c'est vrai que, enfin, pour citer un cliché, c'est vrai que l'enfant est peut-être un petit peu plus roi en Angleterre et on l'autorise plus à vivre son enfance, alors qu'en France, je pense qu'on responsabilise beaucoup plus tôt. Ouais. Et l'enfant suit un rythme adulte et malgré le côté chic de l'uniforme, je pense qu'on est beaucoup moins strict sur l'apparence et la propreté à l'école. C'est vrai que c'est en France, je trouve que voilà, il faut être très très propre,
propre sur
très
soi,
clean
comme on dit.
Pour aller à l'école. Voilà. Et j'ai notamment le souvenir de copains de classe qui avaient vraiment très peur de se salir à l'école.
Ouais. Ouais, moi je me souviens que mes parents me disputaient si je mettais des taches sur mes habits, c'était absolument interdit.
Mais c'est vrai qu'ici, quand on rentre dans les crèches et qu'on voit les enfants avec les nez qui coulent, verts, et qui viennent pas juste de couler, mais qui ont séché toute la journée, c'est assez surprenant.
Ça fait mal, effectivement. Bon, on est un peu à la bourre, malheureusement. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Alors une question quand même que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce que toutes les différences que tu as remarquées, est-ce que finalement ça reflète selon toi une vision différente de la place de l'enfant dans la famille ?
Alors oui, parce que l'enfant a beaucoup plus de liberté au sein de la famille en Angleterre. Mmh. Donc entre les quatre murs de la maison, l'enfant est beaucoup plus libre. Mais par contre, je le trouve beaucoup plus surveillé en dehors. Mmh. Les enfants en laisse, je pense qu'on en voit beaucoup plus en Angleterre qu'en France.
T'en as vu en laisse, toi, dans l'arrêt ?
Mais oui, c'est arrivé.
Si on en voit, mais c'est pas en laisse au cou, hein. On précise quand même, c'est un sac à dos avec une laisse. Donc ils mettent leur sac à dos et puis... Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'ils vont dire, mais de quoi on parle ?
C'est une laisse,
laisse déguisée, voilà.
Et alors qu'en en France, je veux dire, je trouve qu'on responsabilise quand même beaucoup plus tôt l'enfant. Mm-hmm. Ce que je disais tout à l'heure, et juste un petit exemple quand même, par rapport à la protection de l'enfant en Angleterre, c'est que Avatar est interdit au moins de 12 ans en Angleterre, mm-hmm. alors que c'est quand même un film qui est tout public en France.
Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs.
C'est trop jeune.
C'est ça. Ça doit être ça. Et est-ce que tu utilises C'est moi qui décide alors dans ta famille ? On a vu que Pamela Druckerman parlait beaucoup de cette expression. Ça l'étonnait qu'en France, oui, ses parents disent « Bon, c'est moi qui décide ».
Sur son interview.
Moi, je dis ça chez les Gardner. Alors, Géraldine l'utilise. Yasmine opine de la tête. Et Thomas, chez toi ?
Nous l'utilisons aussi. D'accord. Nous l'utilisons aussi. Je sens déjà mon épouse qui sourit.
C'est moi qui décide.
Bon, alors, pour conclure ton intervention, je voulais te demander, bon, donc tu as dit, tu es parent, tu as trois enfants, tu es marié à une Française, bravo, très bon goût. Quelle approche avez-vous adoptée, alors, dans votre famille ? C'est à l'anglaise, à la française, un mélange des deux ? Qu'est-ce que vous faites ?
C'est forcément, c'est une approche un petit peu intermédiaire. On essaye quand même de laisser nos enfants vivre leur enfance tout en les responsabilisant. Mmh. On essaye de faire vivre les deux cultures, mais c'est pas évident parce que ce qu'il faut prendre le fromage avant le dessert ou après, voilà, c'est une question quand même qui se pose souvent à la maison. Et puis également l'histoire du Père Noël. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui
nous écoutent.
Soir.
Les enfants anglais, c'est sûr que non. Les enfants français,
voilà,
on sait pas.
Peut-être les enfants français qui sont debout.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu différent.
D'accord. Okay.
On va en rester là.
Super. Eh bien, en tout cas, Thomas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à Yasmine aussi.
Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à nos deux invités, Yasmine et Thomas, pour leur témoignage. Alors, on espère que ça vous a plu. Parlez-en autour de vous et faites-nous part de vos impressions par courriel. Attention, je vais donner toutes les adresses d'un coup.
Vas-y, donc, lâche-toi.
Courriel, c'est bouche-à-oreille@radioverulam.com.
Ouais.
Facebook, c'est www.facebook.com/RV bouche à oreille, envie, bouche à oreille. Et le blog, c'est bouche à oreille en un seul mot, .radioverlam.com. Voilà, j'ai tout dit. Donc le podcast de cette émission, ainsi que celle de la précédente, qu'on attend toujours, mais ça va bientôt arriver, et ça sera disponible sur le site www.radioverlam.com.
D'ailleurs, nous venons juste de mettre à jour les informations sur le site de Radio Verulam. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez cliquer sur Presenters et vous verrez entre autres de superbes photos gracieusement prises par Elodie Palmary.
Merci Elodie.
Merci Elodie.
Parce que les modèles étaient bien aussi.
Ouais, c'est vrai.
Profitez-en
aussi pour en savoir plus sur d'autres émissions qui peuvent vous intéresser.
Exactement. Et puis la prochaine de Bouche à Oreille, c'est le 21 juin, bien sûr le jeudi. Et attention, cette fois-ci, finalement, on passe à 1 heure.
Youhou ! Enfin.
Comme ça, on n'aura pas besoin de couper Thomas et Yasmine ou leur remplaçant de la prochaine fois. D'ici là, restez à l'écoute et au revoir, à bientôt.